Quand on souffre ou qu'on est assailli de soucis, c'est presque toujours pire la nuit parce que tout est tranquille. Il ne se passe rien pour nous changer les idées et nous distraire de nos misères. Justement, si la cinquième coupe de la colère de Dieu qui est jetée sur terre est si sévère, c'est parce qu'elle se compose d'un double châtiment, des ténèbres avec de nouveaux ulcères très douloureux. Je continue à lire dans le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Alors de profondes ténèbres couvrirent tout son royaume, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Verset 10. Le royaume de la bête est l'empire romain reconstitué, et il est plongé dans les ténèbres. Ce jugement n'affecte donc pas le monde entier. Le premier volet de ce châtiment rappelle la neuvième plaie d'Égypte. Le texte dit que Moïse étendit la main vers le ciel et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans des ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. La cinquième coupe rappelle aussi la cinquième trompette. Le texte dit qu'une fumée épaisse s'éleva de l'abîme et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. Alors, des sauterelles démoniaques ont torturé les hommes en leur infligeant des souffrances vives et prolongées. Au moment de la campagne d'Armageddon, qui aura lieu après la septième coupe, la Palestine sera à nouveau couverte de ténèbres. Le prophète Joël écrit « C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, c'est un jour de nuages et de nuées épaisses, comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. Voici un peuple très nombreux et puissant, il n'y en a pas eu de semblable par le passé, et après lui il n'y en aura plus jamais dans les générations les plus lointaines. Oh, quelle foule dans le val du verdict !» Le jour de l'Éternel est proche dans le val du verdict. Le soleil et la lune sont obscurcis, les astres perdent leur éclat. Le prophète Sophonie a également décrit le jour du Seigneur comme un jour de colère. C'est un jour de détresse et de malheur, un jour de destruction et de désolation, un jour d'obscurité et d'épaisses ténèbres, c'est un jour de nuages et de brouillard épais. Les effets cumulatifs des ulcères malins, des océans boueux, nauséabonds et sans vie, du manque d'eau potable, de la chaleur ardente du soleil, puis des épaisses ténèbres, créera des conditions de vie épouvantables et une misère inimaginable, au point où les hommes se mordaient la langue de douleur, littéralement « continuent de mâcher leur langue à cause de l'atrocité de leur souffrance ». Et pourtant, ils lèvent toujours le poing au ciel. Je continue le texte. Sous le coup de leurs souffrances et de leurs ulcères, ils insultèrent le Dieu du ciel et ils ne renoncèrent pas à leurs mauvaises actions. Verset 11. C'est la dernière fois qu'il est dit que les hommes insultent, littéralement, blasphèment le Dieu du ciel, un titre fréquent dans l'Ancien Testament qui souligne la majesté et la grandeur de Dieu. Les 5 premières coupes constituent l'appel final de Dieu à la repentance, bien que selon toute apparence, les habitants de la terre ont dépassé le point de non-retour depuis déjà longtemps. C'est aussi ce qui est arrivé au pharaon qui retenait les Hébreux captifs. Le texte dit que, 6 fois de suite, le cœur du pharaon s'endurcit, ou bien qu'il endurcit son cœur. Puis, suite aux 4 dernières plaies, il est dit que c'est l'Éternel qui endurcit le cœur de Pharaon parce que sa rébellion avait dépassé les limites. C'est le même phénomène ici. Malgré leurs souffrances, les habitants de la terre continuent à se rebeller contre Dieu, et bien que l'apôtre Jean ne le dise pas, à l'instar du Pharaon, Dieu a probablement endurci leur cœur, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus se repentir. C'est trop tard, les dés sont jetés. Les impies sont allés trop loin dans leur révolte et sont donc confirmés dans leur rébellion. Je continue le texte. Alors le sixième ange versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate, ses eaux tarirent pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. Verset 12. Avant d'arriver à la septième coupe, nous avons un interlude, tout comme il y en a eu après le cinquième sceau et après la sixième trompette. Il permet à Jean de nous donner quelques détails supplémentaires. Cette sixième coupe est donc différente des cinq précédentes car elle ne provoque pas de nouvelles catastrophes sur terre et ne déclenche pas de plaie contre les hommes. Cet assèchement de l'Euphrate prépare la voie pour ce qui doit arriver par la suite. L'Euphrate est souvent appelé le grand fleuve dans les Écritures parce qu'il est le plus important et le plus long de tout le Moyen-Orient. Il prend sa source en Turquie dans le mont Arara, la montagne sur laquelle s'est échouée l'arche de Noé. Puis il s'étend sur 2900 km avant de se jeter dans le golfe Persique. À l'est, ce fleuve délimite le pays que Dieu a donné à Israël et selon la Genèse, le jardin d'Éden était à proximité de l'Euphrate. Le croissant fertile doit son nom aux deux fleuves, Tigre et Euphrate, qui l'arrosent. Au XXe siècle, de nombreux barrages ont été construits sur l'Euphrate pour l'irrigation et pour produire de l'énergie électrique, ce qui fait qu'à une certaine époque de l'année, et en certains endroits, le débit du fleuve est très faible et son lit même parfois à sec. Mais tout porte à croire que pendant la tribulation, la situation sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il se peut en effet que la chaleur ardente du soleil déclenchée par la quatrième coupe fera fondre toute la glace du mont Arara, ce qui d'une part révélera la présence de l'arche de Noé et d'autre part augmentera considérablement le volume du fleuve, entraînant des inondations et détruisant ponts et barrages. Pourtant, avec la sixième coupe, il se passe un phénomène qui assèche le fleuve, ce qui rappelle l'arrêt des flots du Jourdain qui permit aux Israélites d'entrer en Palestine. L'assèchement de l'Euphrate n'est pas un geste de gentillesse de la part de Dieu, mais de jugement, car il permet aux forces militaires terrestres des rois de l'Orient de gagner la Palestine et de participer à une grande kermesse. Le carnage de la campagne d'Armageddon, où ils seront exterminés, tout comme les Égyptiens, qui poursuivirent les Israélites à pied sec dans la mer des roseaux. Ce ne sera pas la première fois que le lit de l'Euphrate est asséché, puisque selon l'histoire, cela a déjà été accompli par les armées des Mèdes et des Perses, qui, justement, venaient aussi de l'Orient. Ils ont détourné le fleuve de son lit, ce qui leur a permis de capturer la ville de Babylone aussi facilement qu'on met une lettre à la poste. Le prophète Ésaïe écrit « Et l'Éternel lèvera sa main pour menacer l'Euphrate, et par son souffle impétueux, il brisera ce fleuve en sept ruisseaux que l'on pourra passer sans ôter ses sandales. » Je continue le texte. « Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs ressemblant à des grenouilles. » Verset 13. Ce spectacle grotesque conviendrait parfaitement à une scène d'un film d'horreur, mais il est important car il explique la suite des événements. Selon la loi de Moïse, la grenouille faisait partie des animaux impurs. Elles illustrent bien les mauvais esprits parce que d'une part, elles vivent souvent dans des endroits plus ou moins saumâtres, sont petites et sans réelle puissance, et d'autre part, par leur allure et le tapage criard qu'elles font, elles symbolisent l'enflure et la fanfaronnade ridicule. Dans la fable, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, la fontaine conclut en disant « La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. tout marquis veut avoir des pages. » Fin de citation. Telle est aussi la vanité des anges déchus et des hommes, et en particulier des rois qui viendront de l'Orient pour en découdre avec l'Antichrist. Bien sûr, ici, et contrairement à la plaie qui frappa l'Égypte, il ne s'agit pas de véritables grenouilles. Par contre, cette image montre combien, aux yeux de Dieu, les esprits impurs sont immondes. Nous connaissons bien les trois personnages mentionnés. Il s'agit de Satan, de l'Antichrist, aussi appelé la bête, et le faux prophète qui est la deuxième bête. L'apparition de démons qui sortent de la bouche de cette trinité diabolique signale un moment décisif, un rassemblement en vue d'une épreuve de force pour s'opposer à la seconde venue de Jésus-Christ. Je continue le texte. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 14. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les démons accomplissent des prodiges. Concernant la seconde bête, qui est le faux prophète, Jean a déjà dit qu'elle accomplissait des signes miraculeux faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde, par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Le but de ces miracles est évidemment de tromper les gens. Jésus a mis en garde ses disciples quand il leur a dit qu'à la fin des temps, de faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Et concernant l'Antichrist, l'apôtre Paul écrit que l'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Jean ne nous dit pas ce qui motive ces rois d'Orient à marcher sur la Palestine, mais d'après un texte du prophète Daniel, ce sera une guerre de conquête pour combattre l'Antichrist et bien sûr établir un nouvel empire, un peu comme dans la bande dessinée où le vizir Is No Good, qui n'a qu'une idée en tête, devenir calife à la place du calife. On voit donc que Satan n'a que faire des deux bêtes. Ce qui l'intéresse est de rassembler, d'une manière ou d'une autre, toutes les forces militaires de la planète en Palestine pour s'opposer à la seconde venue de Jésus-Christ. Les nations du monde seront aveuglées par les démons et dans leur arrogance, elles se trouveront mêlées bon gré mal gré à la campagne d'Armageddon. Le prophète Joël a prédit ces événements. Il écrit « Je rassemblerai tous les peuples, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors là j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël, qu'ils ont dispersé au milieu des nations, et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. » Je continue le texte. « Voici, je viens comme un voleur. » Verset 15. Cette analogie au voleur signifie que Jésus reviendra à l'improviste, au moment où on ne s'y attend pas. Ces paroles sont adressées à deux groupes de personnes, aux impies de la tribulation et à ceux qui se considèrent chrétiens sans l'être vraiment. Quand le Seigneur a écrit à l'église décadente de Sardes, il l'a sévèrement mise en garde, disant « Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et dans le sermon sur le mont des Oliviers, Jésus a dit « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Tenez-vous donc en éveil. » Puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra, vous le savez bien. Si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. » Ici encore, Jésus s'adresse d'avance à des chrétiens de la tribulation qui battent de l'aile et sont sur le point d'abandonner la foi. Aux croyants d'aujourd'hui, dont l'espérance est le retour du Seigneur dans les airs quand il viendra chercher son Église, l'exhortation est la même. L'apôtre Paul écrit « Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. » Et aux croyants fidèles de toutes les époques, Paul dit « Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, mais votre bienheureuse espérance est la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » À la fin du livre de l'Apocalypse, Jésus s'adresse aux croyants fidèles de la tribulation et pour les encourager, il leur dit « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Oui, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui, je viens bientôt. » Je continue le texte. « Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. » Verset 15. C'est la troisième des sept béatitudes que contient le livre de l'Apocalypse. Les personnes ainsi habillées sont celles qui sont revêtues de la justice de Jésus-Christ et qui le suivent, qui lui sont fidèles, au point d'être prêts à l'ultime sacrifice, à mourir en soldat du Christ. Dans sa première épître, Jean écrit « Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons pleins d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. » Je continue le texte. Les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Verset 16. Après un court intermède, Jean revient aux événements qui correspondent à la sixième coupe. C'est ici le seul endroit où le mot « Armageddon » apparaît noir sur blanc dans les Écritures. Il signifie « mont de Megiddo ». Mais comme il n'existe pas de montagne portant ce nom, ce terme désigne la région vallonnée qui entoure la plaine de Megiddo, aussi appelée « plaine d'Esdrélon » ou « plaine de Jisriel ». Elle est située immédiatement au nord du mont Carmel et à environ 100 km au nord de Jérusalem. Elle fait 35 km de long et, à l'est, en direction du Jourdain, 25 km de large. C'est l'un des rares endroits en Palestine où l'on puisse déployer des armées, ce qui en fait la clé stratégique du pays. Dans le passé, la plaine de Jisréel a été le théâtre de plus de 200 batailles entre divers peuples. Au temps du juge Gédéon, les Madianites et les Amalécites dressèrent leurs tentes dans la vallée de Jisréel. C'est là que les Cananéens furent vaincus par la juge Déborah et Barak, son général d'armée que j'ai déjà mentionné. Akasia, roi de Juda, y fut tué, ainsi que le bon roi Josias qui voulut s'opposer aux armées du pharaon Nécho, un désastre que rappelle le prophète Zacharie. Toutes les nations qui ont traversé la Palestine ont fait une halte à cet endroit, depuis les Assyriens en passant par les croisades et Napoléon quand il s'est rendu en Syrie pendant sa campagne catastrophique d'Égypte. C'est aussi dans la vallée ondulée de Megiddo que se livrera la dernière bataille de l'histoire qui fera rage dans tout le pays d'Israël et au-delà, et c'est là que les forces du mal seront vaincues par le Messie. La sixième coupe a planté le décor final, mais avant que n'ait lieu le plus grand combat de l'histoire de l'humanité, il reste encore un septième ange qui va déverser la dernière coupe. Je continue le texte. Le septième ange enfin versa sa coupe dans les airs, une voix forte venant du trône sortit du temple. « C'en est fait, dit-elle. » Verset 17. « Tout comme le quatrième ange, le septième ne verse pas sa coupe sur la terre, mais dans les airs. Cependant, elle va produire toute une série de cataclysmes sur terre. Cette voix forte s'est déjà manifestée pour lancer la série de jugements des coupes. Comme le temple est rempli de la présence glorieuse de Dieu qui interdit accès à quiconque, c'est forcément lui ou l'agneau qui parle et qui dit « c'en est fait ». Cette affirmation est similaire à une déclaration qui a déjà été faite suite à la sonnerie de la septième et dernière trompette. Elle annonçait déjà la fin de la tribulation parce qu'elle contient les sept coupes de la colère de Dieu qui sont la troisième et dernière série de jugements avant la campagne d'Armageddon. La fin de la tribulation est donc une notion relative. Le temps du verbe traduit par « s'en est fait » décrit une action complète dont les effets se poursuivent. Cette affirmation rappelle les dernières paroles de Jésus sur la croix quand il a dit « tout est accompli ». Le jugement de Jésus par Dieu sur le mont Golgotha permet aux pécheurs repentants d'obtenir le pardon de leurs fautes et la vie éternelle. Le jugement de la septième coupe apporte le malheur aux pécheurs impénitents.